secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Dime de
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Luc Biget pour parler de la voie symbolique vers un réenchantement du monde. Luc Biget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scientifique de formation, vous êtes docteur en biochimie, écrivain et symboliste. On va voir de quoi ce que ça veut dire d'être symboliste au cours de l'émission. Vous avez fondé en tout cas en 2000 l'Université du Symbole, où vous donnez des enseignements tous les mois à Paris sur la symbolique. Vos travaux portent notamment sur la complémentarité entre l'approche scientifique et l'approche symbolique du réel. Avec de nombreux ouvrages, je citerai par exemple La force symbolique aux éditions Dervy, ou bien L'homme réunifié, ou bien encore La voix du héros, les 12 travaux d'Hercule aux éditions Janus. Alors, pour bien camper les choses, expliquez-nous un petit peu les divers degrés du savoir, de la connaissance, et comment situer la connaissance symbolique.
Oui, c'est une question importante parce que on considère souvent qu'il n'y a qu'une seule voie de connaissance, qui est la connaissance scientifique, c'est-à-dire fondée sur la raison, sur la logique, sur la pensée cartésienne en gros.
Sur l'expérimentation.
Sur l'expérimentation, sur la vérification, avec toute une méthode. Or, en fait, on peut montrer qu'il existe au moins quatre voies de connaissance. Donc, il y a la connaissance scientifique qui, elle, est de l'ordre de la rationalité et de la causalité et de la prévisibilité. Il y a l'approche systémique que l'on développe de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée, c'est de dire le plus important, ce n'est pas tellement les objets eux-mêmes, mais c'est les relations entre les objets qui vont produire un certain nombre de phénomènes, comme la théorie du chaos. Enfin, là, on reste dans le champ de la science. Mais la différence, c'est qu'on est dans le causal, c'est-à-dire dans le déterminisme et dans l'imprévisible, simplement parce qu'on ne connaît pas avec suffisamment de précision les conditions initiales. Et puis, il y a deux autres voies d'approche de la connaissance qui traitent de la question du sens, parce que ces deux premières voies traitent, au fond, du monde objectif, du monde de la réalité matérielle. Or, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, il se nourrit aussi de sens. Et ce monde du sens n'est pas une espèce de foutoir freudien, si je puis dire, dans lequel on a mis toutes les poubelles du refoulé. C'est une réalité objective, et je pèse mes mots, une réalité objective. C'est-à-dire, les forces signifiantes existent au même titre que les forces physiques, que les forces de la mécanique newtonienne ou même quantique. Et donc, il existe deux formes de pensée ou deux voies de connaissance qui approchent ce monde du sens. L'approche symbolique, dont on reparlera sans doute plus longuement tout à l'heure, mais l'idée, c'est de dire que, au fond, c'est quoi un symbole ? C'est le langage de la nature et de l'inconscient, si on peut parler comme ça. Autrement dit, nous, humains, avons un langage parlé qui est à la fois logique et symbolique, c'est à la fois grammatical, mais les mots disent aussi bien d'autres choses que ce qu'ils semblent dire de premier abord, de manière conventionnelle. Mais, par exemple, les rêves, évidemment, parlent le langage symbolique, et puis la nature, c'est-à-dire les événements que nous rencontrons, une fleur, un arbre, une étoile, tout ça est une forme, est un langage muet qui nous raconte des histoires. C'est un mutos. Mutos veut dire muet, justement. Mais muet ne veut pas dire que c'est du non-sens. Ça veut dire que c'est une histoire, que c'est à nous de la décrypter et de percevoir ses clins d'œil. Sa poésie, en réalité, puisque la poésie est, en fait, cette espèce d'ouverture du cœur et de la pensée à l'ineffable. Et puis la quatrième forme de pensée, elle est chamanique, c'est-à-dire si on peut, enfin, forme de connaissance en réalité. Il est utile de se rappeler que le mot connaissance vient du latin con, connaître, naître avec. Donc au fond, toute connaissance devrait être un acte de naissance. Autrement dit, connaître quelque chose, c'est percevoir de l'intérieur avec sa conscience, sa qualité d'être, sa qualité d'énergie et sa pure présence. Et ça, évidemment, c'est un travail très chamanique. C'est-à-dire, les chamans rentrent dans un état de transe. Et à travers cette transe, ils contactent le monde du dessus et le monde du dessous, c'est-à-dire le monde des esprits, le monde des morts et le monde des dieux, les deux mondes hein, du monde chamanique, nous étant dans le monde intermédiaire, le troisième monde. Et c'est ce contact direct avec la présence du sens, à l'aide de certaines techniques, qui fait que le chaman ramène un savoir qui va rééquilibrer l'harmonie de la communauté. Donc j'insiste sur ce point qu'il y a au fond quatre voies d'exploration du réel.
Où est-ce que vous situez la connaissance philosophique, la réflexion qui n'est pas de l'ordre de l'expérimentation, c'est pas de la connaissance scientifique, c'est pas de la connaissance symbolique, on est encore dans un autre mode de connaissance par le raisonnement.
Alors c'est une pensée scientifique qui interroge la question du sens. Autrement dit, on est dans une forme de pensée scientifique, c'est-à-dire rigoureuse, organisée, qui fait système. Parce que chaque philosophie essaie de faire système. Je pense à Husserl, par exemple, qui lui a questionné la question du sens d'une manière remarquable, d'un point de vue philosophique, mais par l'intermédiaire de on va dire, d'une forme de réflexion et de logique. Autrement dit, c'est la première forme de pensée scientifique qui va interroger le monde du sens, le monde du symbole, mais avec ses propres outils.
Alors je reviens sur ce que vous disiez juste avant sur la connaissance symbolique et je donne la parole à Lélie. Bonjour Lélie.
Bonjour.
Alors vous nous parliez effectivement de la poésie et de la nature qui était riche de symboles. Alors ça me fait penser évidemment Lélie à ce poème Correspondance de Baudelaire que vous souhaitiez nous lire en inauguration, si je peux dire, presque de cette émission. Ça tombe très bien.
Oui, absolument. C'était incontournable, évidemment, quand je me suis dit qu'on faisait une émission sur le symbole. On ne pouvait pas ne pas citer les correspondances de Baudelaire, d'autant plus que, en reprenant le texte ô combien connu, je crois, de la plupart de nos auditeurs, j'ai un petit peu exploré autour de quoi il retournait, pourquoi ce que Baudelaire entendait par là. Et je voudrais juste signaler, avant d'en donner lecture, qu'il dit dans ses poèmes en prose, Baudelaire lui-même, dit que le terme de correspondance est un terme qu'il a pris aux mystiques. Donc, il se met d'emblée dans une démarche qui est celle des mystiques. Alors, ce qu'il entend par les mystiques, il ne le précise pas, mais je suppose que c'est cette tradition qui remonte déjà au Moyen-Âge, et dans laquelle les mystiques et les alchimistes, qui étaient très souvent les mêmes personnes, eh bien, faisaient un travail de correspondance symbolique entre les différents règnes de la nature, mais aussi entre la terre et le ciel, entre les planètes et les éléments naturels, etc. Donc, il est conscient de se mettre dans cette lignée-là quand il écrit ce poème. Et l'autre point, c'est justement au sujet du mot symbole qu'il emploie, bien sûr, hein, puisqu'il parle des forêts de symboles. J'ai été très frappée de trouver aussi cette citation de Joseph de Maistre dans laquelle il dit « Tout se rapporte dans ce monde que nous voyons à un autre monde que nous ne voyons pas. Nous vivons au milieu d'un système de choses invisibles manifestées visiblement. » Et c'est bien ce que Baudelaire entend par « symbole », c'est-à-dire c'est ce qui manifeste dans le visible l'invisible. On reviendra certainement dessus puisque ça nous rappelle étrangement la définition de l'imaginal. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme des hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Alors, je voudrais revenir avec vous, Luc Biget, sur la définition même du symbole. Quelle est l'étymologie du mot symbole?
Ça vient du grec symbolein, c'est-à-dire ce qui réunit.
Alors, est-ce que c'est ce qui réunit le visible et l'invisible?
Alors, par extension, à l'origine, c'était une pièce de monnaie qui était coupée en deux, et donc chacun des propriétaires de la pièce de monnaie savait qu'il pouvait se retrouver. C'était une espèce de signe de reconnaissance. Mais au fond, par extension, le symbole, c'est ce qui est venu à relier le visible et l'invisible, à relier le conscient et l'inconscient, à relier l'imaginal et le monde réel.
Qu'est-ce que vous appelez l'imaginal?
Oui, alors l'imaginal, c'est ce monde intermédiaire, au fond, entre la pure présence du sacré et le monde ordinaire. C'est ce monde, c'est Henri Corbin qui a beaucoup développé cette notion dans l'ésotérisme islamique. C'est ce monde peuplé d'anges et différentes entités, on va dire de forces signifiantes, si on veut avoir un langage un peu plus scientifique, où les génies créateurs vont chercher leur inspiration. C'est ce monde de la pure information, on va dire, qui interagit avec le monde physique, avec la réalité objective, et qui le nourrit de sens, qui le nourrit de joie, qui le nourrit de projets, etc.
Quelle différence avec l'inconscient collectif de Jung, par exemple?
Où
les créateurs vont aussi puiser des archétypes, des...
Je ne crois pas qu'il y ait une énorme différence.
Donc c'est à peu près la même idée.
Oui, simplement l'idée c'est que dans l'inconscient collectif, on a à la fois du lumineux, en termes jungiens, c'est-à-dire des contacts avec des expériences profondément transformatrices pour l'être humain. Et puis on a aussi des ombres, on a aussi des choses obscures qu'il s'agit de dénouer pour retrouver une plus grande conscience et une plus grande liberté intérieure. Donc l'inconscient collectif contient tout ça, à la fois probablement ce que les chamans appelaient le monde inférieur et le monde supérieur, c'est-à-dire le monde des forces obscur et le monde des forces lumineuses.
D'ailleurs, Corbin et Jung se connaissaient et je pense que c'est une époque où il y a eu effectivement toute cette redécouverte de toute cette partie un peu refoulée d'ailleurs par l'Occident moderne, de tout ce monde qu'on appellera imaginal, l'inconscient collectif, les mythes, etc. C'est pour ça que vous aviez souhaité, j'imagine, qu'on sous-titre cette émission vers un réenchantement du monde, parce qu'il y a eu effectivement un désenchantement du monde, pour reprendre l'expression de Max Weber, qui est d'ailleurs l'expression en allemand dans son ouvrage, c'est la démagification du monde. Il dit le monde a perdu son aura magique.
Oui.
Le monde n'est plus habité par des forces, par des énergies, par des forces signifiantes, comme vous dites, par des anges. Et finalement, à la fois les religions monothéistes et la science moderne ont démagifié, ont fait perdre au monde sa magie et on ne le voit plus que comme un univers matériel qu'on peut décrypter par la simple logique.
Oui, alors on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. L'idée, c'est que la science ne peut pas de par sa structure, de par sa méthode, ne peut pas explorer le monde du sens. C'est comme vouloir attraper le grand vent avec un filet à papillon. Parce que la structure de la pensée scientifique et des équations mathématiques n'est pas faite pour nous parler du sens. Au fond, les mathématiques sont dans la compréhension de la réalité objective, ce que sont les symboles à la compréhension de la réalité subjective. C'est deux formes de mathématiques, mais avec des lois, évidemment, et des fonctionnements complètement différents. Donc le fait que notre monde soit si triste et si lassédi, vous savez, c'est l'un des péchés capitaux, notre monde soit privé de joie, semble-t-il lié au fait qu'on a perdu ce contact avec le monde magique, le monde du sens, le monde des mythes, le monde du merveilleux et le monde de l'enfance, pour tout dire. Et sous prétexte d'une raison scientifique qui est supposée tout expliquer et créer de la magie, entre guillemets, artificielle avec tous les systèmes informatiques qu'on connaît. Mais néanmoins, ça n'est que par écran interposé, c'est-à-dire que ça n'est pas dans un contact direct avec le monde du sens. Donc ça ne peut pas donner de la joie. Et ce qui donne de la joie, c'est quoi? C'est le fait d'être en contact avec son mythe fondateur, le fait d'être en lien avec une présence sacrée au fond de son cœur, c'est le fait de faire une nouvelle découverte, qu'elle soit scientifique, esthétique, picturale, musicale ou autre. Autrement dit, c'est cette espèce d'ouverture qui se crée soudainement entre le monde du sens et le monde de la réalité ordinaire. Et malheureusement, ça, on a tendance à le nier dans notre monde parce qu'on n'a pas de méthode pour explorer cet univers-là. Autrement dit, l'idée, ce serait quoi? Je reprends cette expression à Gilbert Durand, c'est de développer non pas un traité de la méthode, mais un traité de la mitode. C'est-à-dire réexplorer les lois qui organisent et qui structurent le monde du sens et les moyens de contact avec celui-ci. En gros, les moyens de contact, il y en a trois qui nous sont du reste donnés par la mythologie grecque. Il y a trois personnages importants. Il y a Chiron, le précepteur des héros, qui souffre d'une blessure incurable. Il y a Apollon et il y a Dionysos. Donc Chiron, il a inventé les constellations et il sait lire dans l'avenir. Autrement dit, Chiron sait, pour différentes raisons, il a une blessure qu'il n'arrive pas à soigner. Il était blessé par une des flèches d'Héraclès. Que nous dit en gros très rapidement ce mythe? Il nous dit au fond, le guérisseur, c'est un guérisseur, il connaît l'art des plantes, c'est un chaman, il connaît les plantes sacrées, les plantes qui guérissent. Et il nous dit au fond, l'expérience de la souffrance amène, ou de l'injustice, amène la personne à se poser des vraies questions sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que le destin, quelle est la place de l'homme dans la nature, etc. Et à savoir lire les signes qui accompagnent sa vie pour avoir avancé dans des réponses sur cette question-là. Ça, c'est la voix de Chiron. La voix d'Apollon, c'est la voix du méditant. Vous savez, Apollon, il avait le crâne rasé, donc c'est comme un soleil. Et ici, c'est la voie de l'observation plus proche du bouddhisme, si on peut dire. C'est-à-dire l'observation de soi, le détachement de toutes les émotions, l'observation des sensations, etc., pour arriver à la conscience pure. Et puis, il y a la voie dionysiaque. Dionysos, c'est le chaman, accompagné de ses ménades, accompagné de ses, qui veut dire femme folle, hein, c'est-à-dire accompagné de tout son aéropage de force vitale, on va dire, qui va explorer le monde du dessous le monde des morts et ramener l'information au monde des vivants. Donc, grâce à l'aide de plantes sacrées, de plantes psychotropes, hein, à l'époque le lierre était une plante psychotrope, c'est pas une raison pour l'essayer directement, mais... donc il y a trois voies de contact avec le monde du sens. Il y a la méditation qui est la conscience pure qui se détache de tous les systèmes d'identification, donc ça c'est la voie apollinienne. Il y a la voie dionysiaque qui est la plongée et la labilité du moi qui permet la plongée dans le monde de l'inconscient, on dirait aujourd'hui, et d'en remonter des informations. Donc ça, c'est la voie chamanique dionysiaque. Et puis, il y a la voie de la lecture des signes, il y a la voie symbolique qui est propre à Chiron.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. En compagnie aujourd'hui de Luc Biget, nous parlons de la voix symbolique. Lélie Anvar.
Oui, je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit sur l'imaginal et vous demander quel est le lien de cet imaginal avec les archétypes platoniciens. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même plus dans l'imaginal que dans l'inconscient collectif, dans le sens où, comme chez Platon, cette idée d'imaginal... est sous-tendu par le concept selon lequel, en réalité, tout ce qui se passe dans ce que vous appelez la réalité ordinaire, donc matérielle, ce qui se passe ici dans ce monde et que les scientifiques peuvent mesurer, vous en parlez souvent de cette question de la mesure, eh bien, en réalité, n'est qu'une projection d'une réalité idéale qui existe dans ce monde intermédiaire, justement, ce monde imaginal, qui est infiniment plus réel que ce que nous croyons être le réel.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce lien entre ce...
Je reprendrai la définition que donnait Jung de l'archétype. Il disait, au fond, l'archétype a la même réalité en soi. C'est la brique constitutive, la brique fondamentale du monde imaginal ou de l'inconscient collectif, ici, peu importe. Autrement dit, l'archétype a la même réalité dans le monde de la réalité subjective que l'atome dans le monde de la réalité objective. C'est la brique constitutive du monde du sens. Par contre, l'archétype est neutre, c'est-à-dire il a à la fois ombre et lumière. Et on ne peut l'observer que par ses traces qu'il laisse dans le monde. Et ça, les traces qu'il laisse dans le monde, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les symboles, ça s'appelle les synchronicités, ça s'appelle les événements, les signes du destin, en quelque sorte. Une autre définition de la lecture symbolique serait de dire voir ce qui transparaît derrière ce qui paraît.
Voilà. Et est-ce que tout le monde peut le faire? Parce que les sciences, l'approche scientifique, après tout, tout le monde peut vérifier. Mais est-ce que c'est vérifiable? Vous semblez dire que non, qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose de reproductible.
Il y a une dimension subjective.
Voilà. Attendez, il y a deux choses différentes. C'est effectivement pas reproductible, mais pas plus que l'histoire est reproductible. L'histoire n'est pas un objet de science parce qu'on ne peut pas la reproduire en laboratoire. Pas plus qu'un tourbillon dans un fleuve n'est reproductible, parce que ce sont des événements uniques. Donc simplement, là, on est dans le champ de l'unicité. Du reste, chaque individu est unique et particulier. Par contre, on a des constantes. Si on regarde le vol du feu, par exemple, dans toutes les mythologies, c'est Lévi-Strauss qui explique ça, dans toutes les mythologies, le vol du feu est un rapt, est un vol, et donc est produit par une transgression. Donc la connaissance est toujours un acte de transgression. Par contre, la mythologie grecque le met en scène sous la figure du mythe de Prométhée, la Bible sous la figure de la tentation par le serpent, d'autres traditions d'Afrique, le mess, c'est un chien qui vole le feu et qui le fait traîner en l'accrochant à sa queue, etc.
Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des archétypes qui sont un peu objectifs, mais qu'on retrouve dans toutes les cultures avec des formes différentes,
voilà.
Des récits narratifs différents.
Il y a une dégradation de l'archétype. C'est-à-dire, il y a un universel qui dit, l'archétype universel, il dit, la connaissance est toujours une transgression. Autrement dit, il y a des forces à l'intérieur de nous qui nous induisent à la paresse et il faut transgresser pour aller vers la lumière, quel que soit le terme qu'on mette derrière. Par contre, là, chaque culture va l'exprimer à sa manière, à fonction de sa propre idiosyncrasie, de ses propres spécificités. Et après, chaque individu va le vivre à sa manière. Donc on a une espèce de dégradation de l'intensité de l'archétype entre sa pureté qui est universelle, mais il va se répertorier d'une certaine manière dans les cultures et d'une manière encore plus spécifique chez les personnes.
Et donc chacun doit faire le travail de remonter vers l'archétype originel.
Vers son archétype originel, parce qu'on n'a pas tous les mêmes mythes fondateurs. Alors on peut voir après sur le thème astrologique le mythe fondateur ou les mythes fondateurs dont on est porteur, mais au fond, on peut aussi raisonner avec, une fois par exemple, quelqu'un est venu à l'Université du Symbole suivre un séminaire sur le mythe de Prométhée. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était que le mythe de Prométhée. Elle est venue quand même. Et quand on lui a demandé pourquoi cette personne était venue, elle disait j'ai raisonné avec le mot, avec le nom. Et effectivement, elle avait un mythe de Prométhée dans sa vie personnelle.
Alors, vous parlez beaucoup du mythe de Prométhée. Ce serait assez intéressant, Lélie Anvar, que vous nous rappeliez. Parce que c'est un mythe qui est très actuel, effectivement, qui parle beaucoup de notre monde actuel. On va en parler.
Oui, absolument. C'est vrai que Prométhée est un grand héros pour l'humanité, bien sûr, puisqu'il lui a donné le feu. Mais on va peut-être revenir aux origines de ce mythe et rappeler que Prométhée, en fait, est un cousin de Zeus, ce qui n'est évidemment pas un hasard, puisqu'il est né d'un titan, Japète, et c'est aussi le cas de Zeus. Donc, ils sont cousins. Déjà, au départ, il faut s'en souvenir. Ensuite, Prométhée passe, selon les diverses versions du mythe, pour avoir créé les premiers hommes en les façonnant de terre glaise. Et dans d'autres mythes, il est juste le bienfaiteur de l'humanité. Mais évidemment, cette idée de terre glaise est très intéressante. On y reviendra sans doute, puisqu'elle nous rappelle étrangement la création d'Adam dans la Bible. C'est donc, Prométhée aimait les hommes et il a trompé Zeus une première fois dans une affaire de sacrifice. En fait, il a trompé Zeus, disons, en lui faisant prendre la moitié d'un bœuf qui était en fait que la graisse et les os. Et il a donné la chair et les meilleures parties du bœuf aux hommes. Ce qui a évidemment mis Zeus dans une grande colère. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu rancune contre Prométhée. Et il a eu aussi une grande colère contre les mortels. Donc, pour les punir, il a décidé de ne pas leur envoyer le feu. Et c'est comme cela que Prométhée est venu une deuxième fois au secours des hommes en allant voler les semences du feu à la roue du soleil et en les rapportant sur terre cachées dans une tige de férule. Une autre tradition veut, peut-être c'est la plus connue, qu'il ait dérobé ce feu donc à Héphaïstos, hein, dans l'atelier d'Héphaïstos. En tout cas, Zeus punit Prométhée en le condamnant à rester enchaîné sur le Caucase et en envoyant un aigle lui manger le foie éternellement, puisque le foie est sans cesse, il revient sans cesse et l'aigle le dévore sans cesse, dans une souffrance évidemment donc qui se renouvelle. Et il punit les hommes en leur envoyant Pandore, dont on parlera tout à l'heure. Toujours est-il que Prométhée reste là pendant très longtemps et il ne sera libéré que par Héraclès, donc le grand héros qui, lors de ses tribulations dans le Caucase, va rencontrer Prométhée, va le libérer. Et c'est grâce à Prométhée, d'ailleurs, que Hercule pourra aller dans le jardin des Hespéries trouver les pommes d'or, parce que c'est Prométhée qui lui dit qu'il doit s'adresser à Atlas et que seul Atlas peut donc cueillir ses pommes d'or. Donc Prométhée est aussi une figure de devin. Et puis finalement, il va se réconcilier avec Zeus. L'histoire est encore longue, mais on va l'arrêter là, puisque l'essentiel est dit. Mais il va se réconcilier avec Zeus, ce qui est très intéressant, parce que justement, il va aussi prévoir un certain nombre de choses qui vont se passer et prévenir Zeus, en réalité. Et entre autres, il va aussi prévenir son frère du danger que Zeus prépare, à savoir un grand déluge qui doit détruire la race humaine. Donc il est devin, il est celui qui donne le feu aux hommes, mais il est aussi celui qui les prévient des dangers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les dangers qu'il prévient, ou dans ce qu'il fait, il y a un lien avec des thèmes bibliques. Et c'est assez frappant de le remarquer ici.
Alors, Luc Bugey, quel sens retenir d'un mythe comme ça? Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut lire qui peut nous dire quelque chose d'une réalité objective de ce qu'est l'humanité?
Il y a beaucoup de choses dans ce mythe. On ne va pas pouvoir y revenir en détail. Mais simplement, je voudrais retenir deux idées essentielles. La première, c'est le déluge qui est en train d'arriver d'une certaine manière et avec le dérèglement climatique. Et la deuxième, c'est que Prométhée, c'est vraiment le mythe du XXe siècle, avec Faust, on va voir. Mais Prométhée, c'est qui? C'est ce personnage. Prométhée veut dire celui qui prévoit. Alors, vous disiez, il est devin, mais il n'est pas devin au sens de la pitié. C'est-à-dire, il n'est pas canal pour une énergie qu'il traverse et qui donne de l'information. Autrement dit, Prométhée, c'est celui qui prévoit, mais qui n'est relié à rien sauf à lui-même. Donc c'est un orgueilleux, c'est un inventeur, c'est un créateur, c'est l'intelligence intuitive de l'inventeur, du scientifique ou de n'importe qui peut avoir une vision, un flash sur le présent et sur l'avenir. Donc Prométhée, il a trahi les dieux, donc il est dans une posture plutôt athée, on va dire. Donc c'est quelqu'un qui pense que et il va reconstruire l'homme en même temps. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'hubris, dans la démesure, dans ce désir c'est un titan, hein, les titans sont dans la démesure, et dans ce désir de reconstruire le monde sans faire appel aux dieux, ou en tout cas en étant même capable de les trahir. Alors derrière la figure de Prométhée, on a évidemment tout le monde moderne, qui met surtout l'accent sur la connaissance, sur le savoir. Le vol du feu, c'est ça, c'est le vol de la connaissance qui a été donné aux hommes. Alors Prométhée est brillant, mais il va pécher par deux endroits, en quelque sorte. Le premier, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire il a tout prévu sauf le déluge. C'est-à-dire on est dans ce monde où la compétitivité, mais aussi la prévision du futur est essentielle pour garder le contrôle sur notre personnel dans nos vies et sur le monde. Mais personne n'a vu venir le déluge. Et puis, il est aussi dans le rejet du féminin. Pourquoi il est dans le rejet du féminin? Simplement, il y a cette histoire avec Pandore. Pour punir Prométhée, Zeus envoie la première femme À l'époque, il n'y avait pas de femme. Il envoie la première femme, qui va s'appeler Pandoros, à Prométhée pour éteindre son feu, pour être une espèce de contre-feu à sa frénésie créative. Pandore veut dire tous les dons. Pandoros, tous les dons. Et cette première femme, elle est habillée Athéna lui donne une tunique, une autre déesse lui donne elle est tisseuse, elle a un collier d'or, etc. Et elle va ouvrir la fameuse jarre de Pandore.
Donc c'est pas une boîte, c'est une jarre.
C'est une jarre.
Toujours la boîte de Pandore.
Quand elle arrivera sur la Terre. Alors on lit souvent le Pandore comme étant une espèce de féminin qui va arrêter la créativité prométhéenne et qui va de fait apporter tous les maux, à savoir la vieillesse, le vice, la folie, etc. Il y en a sept. Il y a que l'espérance qui reste sur le bord de la jarre. On peut le lire autrement, cette histoire. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais on peut le lire autrement. C'est-à-dire, Prométhée va refuser son alter ego. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Pandoros, qu'il est habillé par les dieux. Mais pourquoi c'est l'alter ego, c'est-à-dire le contraire en même temps de Prométhée? Simplement parce qu'elle a l'art du tissage. Or, le tissage, c'est une vieille image, les moires, vous savez, tissées dans la mythologie grecque. C'est-à-dire, elle détenait les secrets de la vie et de la mort des humains. Tisser, c'est quoi? Vous savez, il y a la trame et il y a le fil, et il y a la chaîne, c'est une espèce de canevas où s'entrecroisent la verticale et l'horizontale. Sur la verticale, c'est le lieu de la transcendance, c'est la relation au ciel, sur l'horizontale, c'est la vie quotidienne. Et le fil, évidemment, il va passer entre l'un et l'autre, c'est-à-dire en harmonisant son existence entre les besoins du passé, c'est-à-dire la ligne horizontale, et les besoins de la transcendance, la ligne verticale, on arrive à dessiner une magnifique image qui représente notre place dans l'univers. Donc, Pandore est l'art du tissage, c'est-à-dire c'est une femme, donc elle a l'art de laisser arriver les choses, elle a l'art de se laisser féconder par la présence du monde du sens, ce que ne sait absolument pas faire Prométhée, puisque c'est un impatient qui veut féconder les autres, mais lui-même refuse de se laisser féconder. Autrement dit, c'est quelqu'un qui veut changer le monde, mais qui a du mal à accepter de se changer lui-même, en ouvrant sa conscience à la pressante présence de l'univers et du monde du sens. Donc Prométhée et Pandore auraient pu équilibrer le savoir de la vision avec Prométhée et le savoir de l'inspiration avec Pandore. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'à la fin du mythe, lorsque Prométhée est délivré, vous savez, il était attaché à son rocher, et Zeus avait juré que jamais il ne le délivrerait. Et grâce à Prométhée, il va le délivrer, mais...
Grâce à Héraclès,
merci. Mmh. Il va le délivrer, il va être délivré, mais pour ne point se dédire de sa promesse, Zeus va demander à Prométhée donc, de garder à son doigt une bague en fer avec un chaton contenant une pierre du rocher auquel il était attaché. Comme ça, il ne sera jamais libéré. En d'autres termes, il est libéré parce qu'il accepte l'alliance, qui, naguère, il avait refusé à Pandore. Donc c'est l'alliance de cette créativité incroyable de l'invention contemporaine avec les qualités de réceptivité poétique à la présence du sens du féminin qui permet d'arriver vers un monde harmonieux.
Alors, on pourrait dire aujourd'hui, ce serait l'alliance de la technologie, de la science moderne, avec les traditions ancestrales, des peuples chamaniques, les médecines
l'alliance,
traditionnelles,
ouais.
Les visions holistiques du monde,
absolument.
Qui permettraient cette réconciliation de ces deux polarités qui sont plutôt en opposition.
Elles ne sont pas en opposition parce que...
Enfin, il y en a une qui domine l'autre, en tout cas.
Il y en a une qui domine l'autre, mais elles ne sont pas en opposition simplement parce que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on a besoin de pain et de sens pour exister. Donc elles sont extrêmement unies, en réalité.
Oui, il faudrait les réconcilier, bien sûr. On les a séparées, mais dans le monde moderne, on les a séparées.
Donc ça voudrait dire, effectivement, dans notre monde, redévelopper un traité de la méthode qui fasse le pendant du traité de la méthode.
Alors, ça me fait penser à un film qui montre ça très bien. Je m'aperçois qu'il était vraiment fondé sur ce mythe de Prométhée et de Pandore, c'est Avatar, le grand succès de James Cameron, qui montre une humanité prométhéenne à la conquête de planètes avec un côté très cow-boy, hein, donc tout le caractère. caractère, on va dire, voilà, orgueilleux, prométhéen, qui veut conquérir et qui veut dominer. Et puis, la planète s'appelle Pandora. Absolument. Et sur cette planète Pandora, c'est le féminin qui domine.
C'est le féminin, c'est
l'harmonie,
le chaman.
C'est le chaman, c'est... l'harmonie avec la nature. Et on voit bien, cette opposition et ce que montre le film. Et je pense qu'il a beaucoup touché les gens sans même forcément le décrypter consciemment, parce qu'on est dans un univers aussi symbolique. C'est cette nécessité de réintégrer dans notre monde hyper masculin, hyper dominateur, ces valeurs féminines de réceptivité, d'alliance, de reliance, de communion avec la nature, qui sont aujourd'hui évidemment fortement refoulées.
Oui, alors je voudrais, oui, c'est pour ça sans doute que le film, mis à part ses qualités esthétiques qui
bien
sont
sûr,
remarquables,
toucher,
mais que le film fonctionne parce qu'il touche une structure mythologique dont on a besoin aujourd'hui.
Tout à fait.
Alors maintenant, je voudrais quand même faire ce point par rapport à la nature, etc. C'est pas un paradis New Age, l'exploration mythologique et l'exploration symbolique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire avoir le courage de se regarder en face sans tricher et d'entrer dans la labilité du moi. Parce que, au fond, pour explorer de manière consciente les autres plans de conscience, c'est-à-dire les mondes chamaniques, si on veut dire, si on veut voir ça comme ça, mais il y a aussi différentes manières de les ordonner, peu importe. Mais autrement dit, ça veut dire accepter de vivre consciemment des expériences qui peuvent nous dépasser. Et ça, il faut du courage. Et ça, c'est le courage héroïque. Et c'est pour ça que le premier travail d'Hercule, qui est la conquête du lion de Némée, commence par le fait de se regarder vraiment en face.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel et nous poursuivons notre conversation sur la voix symbolique avec Luc Biget, Lélian Varr.
Oui, je voulais vous poser une question sur ce que vous venez de dire, à savoir que donc il y a une entreprise symbolique qui est une entrée en soi et un travail sur soi en quelque sorte. Mais je voulais savoir quelle est la visée de ce travail, c'est-à-dire pourquoi entrer en symbolique, si j'ose dire.
J'ai envie de répondre de deux manières. Au début, la visée symbolique, c'est, en tout cas pour moi, ça a été de répondre à une espèce d'impulsion intérieure, de quête de vérité, mais vérité entre guillemets, puisque plus on s'approche de la vérité, c'est comme la queue du lézard, plus on l'attrape, quand on l'attrape, il lui en repousse une autre. Donc évidemment, il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a une vérité absolue, mais il y a des étapes vers cette vérité, entre guillemets. Et puis, l'autre chose, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que le désir de quête de vérité est lui-même obstacle à l'acquisition de la vérité. Donc, au fond, on ne peut que se mettre dans une position de Pandore, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire d'accueil, d'ouverture, d'acceptation, de pure présence, puisque ce qu'on peut imaginer comme étant un chemin vers la vérité est lui-même une illusion. À ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui est de... C'est une grande question qui est de percevoir que l'univers est accueillant, que l'univers est bon et qu'au fond, il va nous donner des signes ou des expériences qui vont nous rapprocher de l'inconnu. Donc on ne parle plus de vérité à ce moment-là, on parle simplement d'inconnu.
Mais c'est quand même donc la visée finale, c'est d'accéder à une forme de vérité.
La visée finale, c'est la question, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que... Je veux dire, l'homme est le seul animal à pouvoir se poser ce genre de questions. Ce qui spécifie l'homme, ce n'est pas tellement ce qui fasse de la technologie. Les abeilles, les oiseaux savent très bien faire leur nid. L'homme a expandu ça de manière formidable, mais ce n'est pas spécifique à l'être humain. Ce qui est spécifique à l'être humain, c'est de se poser la question du sens. Autrement dit, qu'est-ce que je fais dans cet univers et quelle est la nature profonde de la vie et quelle est la fonction de l'homme par rapport aux autres êtres de la nature. C'est le seul... parmi tous les animaux, à pouvoir s'asseoir sur un zafou et méditer en silence, ou transformer sa danse en transe pour contacter les autres mondes.
Oui, mais la visée finale n'est pas qu'une connaissance,
donc,
c'est pas l'accumulation.
C'est une expérience.
C'est une expérience qui doit nous transformer, c'est-à-dire au fond, c'est une voie spirituelle, la voie symbolique.
La connaissance symbolique est à prendre au sens étymologique de naître avec, connaissance, naître avec. Donc dès qu'on rencontre un symbole, ce symbole a le pouvoir de nous transformer si on sait s'ouvrir à lui. L'idée, c'est quoi? C'est que l'être humain est un passage et qu'il est loin d'être achevé et il n'y a que le cerveau qui pense qu'il est achevé. Mais au fond, on doit probablement aller au-delà de la pure pensée du cerveau vers des états de conscience plus ouverts, plus larges. Et la méditation et la voie symbolique et l'expérience dionysiaque, chamanique, sont des portes d'ouverture vers cet au-delà de l'homme. Donc c'est simplement participer au grand mouvement de l'évolution qui fait qu'une algue brune est devenue un homme et qu'un homme est en train de devenir autre chose aujourd'hui.
Oui, alors donc il y a dans cette pensée l'idée que quelque chose perdure de l'homme après la mort. Vous parlez d'ailleurs beaucoup de la mort, de la question, de la manière dont la pensée symbolique réconcilie l'homme avec sa propre mort. Donc il y a quelque chose qui continue. Le symbole nous dit cela aussi.
Est-ce que le symbole nous dit qu'il y a quelque chose qui continue? C'est une bonne question. Le symbole nous dit qu'il y a un autre monde.
Qu'il y a un invisible, en tout
qu'il
cas.
Qu'il y a un invisible.
Il me semble qu'il y a donc un danger possible de cumuler, je dirais, la connaissance symbolique comme un savoir ésotérique puissant. On connaît des gens qui se passionnent pour ça, mais qui ne sont pas transformés. Donc ça pourrait être un danger possible de cette connaissance, de cette voie de connaissance. Il me semble qu'il y en a un autre, moi, que je détecte un peu autour de moi, chez des gens qui sont passionnés de connaissance symbolique, c'est aussi de voir des signes partout. Et je connais des gens qui passent leur temps ou à aller voir des voyants ou à essayer de faire interpréter leur thème astrologique et de ne vivre qu'en fonction de ça et de chercher les synchronicités à tout bout de champ. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a évidemment la majorité de la population vit plutôt dans un rationalisme beaucoup plus grand, mais il y a aussi peut-être un danger de la pensée magique systématique.
C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que la voie symbolique n'est pas une voie pavée de lait et de miel. C'est-à-dire... ce que vous évoquez, c'est-à-dire la spéculation intellectuelle sur le symbole et le fait de voir des symboles ou des signes partout, c'est deux systèmes de protection du mental contre le contact direct avec le monde du sens qui nous transforme encore une fois. Qu'est-ce que fait la pensée? La pensée, elle modélise le réel, elle modélise le monde. Donc elle nous évite d'avoir un contact direct avec le monde. Et de même que les émotions. C'est-à-dire les émotions, c'est des systèmes qui nous protègent, qui sont en général issus de la peur, et qui nous protègent des sens, qui nous protègent en réalité de cette autre chose essentielle que sont les sentiments. Car les sentiments nous mettent dans une vulnérabilité, une présence à nous-mêmes. L'amour est un sentiment, la colère est une émotion. Et donc, ces deux voies de contact direct avec le réel, l'intuition, c'est-à-dire la perception directe du monde du sens, et le sentiment ou les sensations sont souvent voilés dans notre culture par l'intellect qui nous empêche, qui brouille ce contact, qui nous protège contre ce contact, et puis la floraison des expériences émotionnelles de tout genre, où on veut absolument faire des expériences et des trucs, qui est aussi un système de fuite, paradoxalement. Donc c'est pour ça qu'il faut un vrai courage pour explorer le monde du sens, parce que on se rend compte que l'identité, c'est-à-dire la structure du moi, ce qu'on appelle l'ego, est souvent bouleversée et remise à sa place comme quelque chose d'infime. Jung avait cette très belle définition de l'ego, il disait « l'ego est une crispation de la conscience ». C'est-à-dire cette conscience universelle qui s'est crispée à un endroit comme un tourbillon dans un fleuve et qui n'arrive plus à en décoller. Et donc du coup, elle s'enfonce dans cette espèce de point infime qui est le bout du tourbillon, et elle n'arrive plus à voir l'ensemble du fleuve, malheureusement. Et on est souvent, malheureusement, dans cette situation, bien qu'on ait toutes les portes d'ouverture avec les voies de contact que j'évoquais tout à l'heure.
Alors il y a un autre mythe que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, c'est le mythe d'Hercule, en nous disant qu'il était particulièrement intéressant, archétypal, justement, de la connaissance symbolique. Alors pourquoi ? Et peut-être que Lélie se serait peut-être rappelé en une minute le mythe d'Hercule, de quoi il s'agit, avant qu'on l'analyse, en tout cas le début de ce mythe.
Oui, en une minute, évidemment, c'est compliqué, mais c'est vrai que Hercule, pour parler du récit cadre de sa vie, est un fils illégitime de Zeus, et à ce titre, il mérite la rancune de Héra, qui va tout manigancer pour que Hercule soit obligé de d'accomplir en fait 12 travaux. Et ces 12 travaux vont le mener d'aventure en aventure à montrer sa force. Et finalement, au milieu de ces 12 travaux, il aura aussi d'autres aventures. Et en tout cas, Hercule est vraiment l'image du héros qui est condamné par les dieux à accomplir un certain nombre de travaux dans lesquels il montre sa force, mais à travers lesquels aussi il devient le héros qu'il doit devenir. C'est-à-dire qu'il devient fidèle à sa nature divine, puisqu'il est le fils de Zeus.
En accomplissant ses travaux.
En accomplissant ses travaux, absolument.
Alors Luc Biget, pourquoi ces travaux d'Hercule vous paraissent aussi importants pour nous parler du chemin initiatique ?
Parce que les 12 travaux d'Hercule sont une espèce de palimpseste, de parchemin, étape par étape, qui montre le travail intérieur. Pour aller de l'individu, Hercule, avant de commencer ses travaux, était devenu roi de Mycène. Donc c'est l'équivalent de la personne qui a réussi socialement, qui s'est bien intégré dans sa société, qui a un bon job, etc. Et puis Héra le rend fou. Fou aux yeux des hommes, mais Héra, évidemment, elle sait ce qu'elle fait. Et donc, il abandonne tout, il tue ses enfants, c'est-à-dire il quitte ses projets d'avenir. Et il va commencer, alors il fait une grosse dépression en fait, hein. Il s'enferme dans une chambre noire, il va voir la Pythie lui dit écoute, il faut absolument que tu fasses ces 12 travaux, Hercule n'a pas envie, bref, c'est un peu compliqué, mais il y va quand même. Et le premier travail, ce sera la capture du lion de Némée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hercule a déjà capturé un premier lion, qui est le lion de Cithéron. Donc il a déjà une peau de lion sur lui, il est déjà habillé en lion. Et pour capturer ce lion de Némée, il va... Bon, l'histoire est un petit peu longue, mais je suis obligé de la résumer. C'est-à-dire, ce lion, il a une peau invulnérable. C'est-à-dire, Hercule lui envoie des flèches, il ne réagit pas. Il essaie de lui trancher la gorge avec son épée, ça ne marche pas. Il lui envoie un coup de massue, ses oreilles lui teintent un peu. Il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Je vais rentrer dans ma caverne. Il rentre dans sa caverne, qui est à double entrée. Donc Hercule le suit, il le poursuit. Mais quand Hercule rentre par un bout, Hercule, il sort par l'autre. Le lion sort par l'autre. Donc il y a un jeu de chassé-croisé comme ça qui dure un petit moment. Et puis au bout d'un moment, Hercule se dit... Je vais rentrer sans armes dans la caverne. Il fait face au lion, ce qui n'est pas du tout une attitude de chasseur émérite, hein, puisque normalement, le chasseur, il arrive derrière le lion et lui tranche la gorge. Là, il va faire face au lion et le regarder bien en face et l'étouffer. Et à ce moment-là, le lion va mourir. Alors, imaginez la scène, c'est-à-dire Hercule habillé en peau de lion face à un autre lion. Donc, au fond, c'est Hercule qui a le courage de se regarder face à lui-même. Et quand il se voit vraiment tel qu'il est, il s'étrangle de stupeur. Il s'étrangle de stupeur. C'est-à-dire, il voit à quel point il a confondu toute sa vie insensibilité et invulnérabilité, à quel point il a confondu séduction et amour, puisque le lion est né de la lune, il est né, ou comme Vénus, il est né de l'écume des flots, qui a été ensuite récupéré par la lune et envoyé sur Terre. Donc le lion, au fond, ce sont tous nos masques, notre persona que l'on met en place pour entrer dans le jeu social. Hercule était roi de Mycène avant de faire son premier travail. Donc au fond, c'est voir à quel point nous trichons par rapport à nous-mêmes. Et Némé veut dire, le lion de Némé, Némé veut dire de la clairière. Lorsqu'on voit ça, il y a une espèce de clairière de lumière qui s'installe dans la jungle de nos représentations et qui permet l'ouverture aux autres travaux qui lui seront imposés par Eurysthée.
Et donc,
Eurysthée voulant dire en grec celui qui repousse au loin les limites.
Voilà, et donc je renvoie à votre livre La voix du héros, les 12 travaux d'Hercule aux éditions Janus pour ceux qui veulent savoir quelles sont les différentes étapes de ces travaux qui tous visent à quoi finalement, à réaliser
à
l'homme.
À l'immortalité, c'est-à-dire à la réalisation de l'homme dans sa dimension spirituelle. Le premier travail, c'est l'ouverture du petit anneau de l'ego. Le deuxième travail, le sanglier d'Érimante, c'est la conscience de son destin, etc. Jusqu'à l'immortalité. Le dernier travail, le Cerbère, la capture du Cerbère, du chien, qui est la dissolution de toutes nos limites.
Voilà, cette émission se termine avec un bref agenda culturel des Lyon-Var.
Oui, je voudrais signaler que dans 3 jours, le 11 janvier à 19h30, Luc Biget vous donnerait une conférence au Forum 104, 104 avenue de Vaugirard.
Rue de Vaugirard.
Rue de Vaugirard, pardon, oui.
C'est à Paris, dans le 6e arrondissement.
Absolument. Dont le thème sera « Quel modèle pour fonder l'éthique ?» dans lequel vous reprenez sans doute un certain nombre de thèmes qu'on a abordés ici.
À travers la lecture biologique et mythologique.
Voilà. Ensuite, et plus généralement aussi, je voudrais renvoyer au site de l'Université du Symbole, université.dusymbole.free.fr. Là, on trouvera tous les séminaires qui sont organisés par l'Université du Symbole cette année, dont le thème général est « Le nombre, le symbole et le monde ». Le prochain séminaire aura lieu les 28 et 29 janvier, sur le symbolisme du 7 à l'entrepôt 7 rue Francis de Pressens dans le 14e.
Ce sont des informations que nous pourrons retrouver sur le site internet également.
Absolument, absolument, si c'est allé trop vite. Et vraiment, si vos séminaires sont aussi passionnants à lire que votre Voix du héros, les 12 travaux d'Hercule, j'encourage tout à fait nos auditeurs à s'y rendre.
Et je rappelle aussi votre ouvrage La force du symbolique aux éditions Dervy. Merci beaucoup d'être venu nous parler
Merci
de
beaucoup.
Cette voix symbolique. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Hubert Riffs qui nous parlera de la nature, de l'astrophysique, de l'histoire de l'univers et surtout de la beauté du monde. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.